Voilà, nous, on a beaucoup bougé déjà. Comment allez-vous? Marcus Closer. Donc, beaucoup me connaissent. Cela fait 15 ans que nous habitons à Mulhouse et depuis 15 ans aussi dans le groupe Oasis. Est-ce que vous voulez vous lever juste et respirer un peu? Parce que nous, on a beaucoup bougé. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont un petit peu, parce que vous avez entendu beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai envie de vous dire beaucoup de choses. Alors, waouh! Est-ce que ça va aller? Voilà, c'est bon, respirez bien et on va y aller. On a jusqu'à quelle heure? Quelles sont vos habitudes? Ce n'est pas tellement mon habitude d'être long, mais là, je crois que j'ai pas mal de choses à dire. Donc, vous avez la Sainte Cène après? D'accord, je peux aller tranquillement. D'accord. Tranquillement jusqu'à moins 20. Merci beaucoup. Alors, dans la parole de Dieu, nous trouvons de ces versets qui résument les grands faits de l'histoire du salut ou l'œuvre du salut. Et souvent, quand même, nous les connaissons par cœur. Alors, je vais faire un petit test. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Sans tricher, sans regarder. Ah. Kamel, bravo, c'est ça, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Et l'autre verset peut être un peu moins connu, et là vous pouvez tricher parce que vous avez le quoi neuf, 1 Corinthiens 2, 2, facile à retenir, 1 Corinthiens 2, 2. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà notre conviction, voilà ce que nous avons à cœur, de faire connaître Jésus-Christ crucifié. Ça résume donc l'œuvre du salut et notre mission. Alors nous le savons, c'est notre conviction que le péché, depuis que le péché est venu dans le monde, le péché a amené comme salaire la mort physique, spirituelle et éternelle. Mais il y a une solution, Jésus-Christ. Dieu est venu jusqu'à nous par Jésus qui est mort à notre place à la croix de Golgotha. Et ceux et celles qui croient en Jésus reçoivent le don de la vie éternelle. Alors comme témoins de Jésus, évidemment, nous avons à cœur de partager la solution de notre perdition. Partagez aussi à ceux qui viennent d'un arrière-plan culturel très différent. Et si nous commençons à partager l'Évangile avec des gens qui viennent d'un arrière-plan culturel très différent, peu à peu, ou peut-être même rapidement, nous réalisons que, oula, il y a parfois un problème. Ces gens ne comprennent pas du tout ce que je veux dire, ou le comprennent tout à fait différemment. Je vais vous donner deux exemples, l'un de jeunes missionnaires, et un exemple me concerne moi-même. Il y a 30 ans, j'habitais à Lausanne, en Suisse, dans un foyer de jeunesse. Et il y avait aussi un dortoir dans ce foyer de jeunesse et de passage régulièrement des Nord-Africains. Et je me souviens bien que j'ai pu parler à un de ces Nord-Africains et avec beaucoup de joie, on a lu la parabole du fils prodigue ensemble. Et à la fin, il n'a rien compris. Il m'a dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Un gars qui a dilapidé la fortune, qui a créé la honte de la famille, il est accueilli par son père, il fait encore une fête. Et moi, à l'époque, ignorant évidemment de toutes ces questions culturelles, je le dis encore, et tu sais quoi? Le père dans l'histoire, c'est Dieu, c'est Allah. Oh, c'était très très loin de sa compréhension. Ça ne peut pas être Dieu. Donc, il n'a pas compris, beaucoup d'incompréhension. L'autre exemple concerne un jeune missionnaire qui est allé au Moyen-Orient. Très rapidement, c'est une histoire particulière, il gagne la confiance d'un jeune homme aussi. Ce jeune homme avait un poste important dans l'administration et le devoir de ce jeune homme, il était dans les renseignements, c'était tout simplement de lire les courriers de cet homme. Donc, il a lu les courriers, il était touché du coup par tout ce qui était écrit, la bénédiction de Dieu, toutes ces choses. À l'époque, ce n'était pas Internet, ce n'était pas les emails, c'était les courriers papier. Et un jour, il va trouver cet homme Ça ressemble un peu à Nicodème, n'est-ce pas? Il va trouver cet homme pour demander qu'est-ce que c'est cette foi. Et donc, ils deviennent amis, et ce jeune musulman, dans un pays très fermé, en tout cas un pays fermé, commence à lire la Bible. Mais une nuit, il vient tout excité, scandalisé, et dit à ce missionnaire, « Mais j'ai vraiment un problème avec ce livre. J'ai persévéré à lire, et là j'arrive à un passage dans la Bible, c'est inacceptable. » Et d'ailleurs, il a dû avouer qu'il a jeté la Bible dans un coin pour dire « C'est du fumier. Pourquoi ?» Et vous allez être très étonnés. C'est un très beau passage. Cantique d'Anne, 1 Samuel 2, nous lisons dans le verset 8. « De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre pour le faire siéger avec les notables. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. » C'est Dieu qui fait ça. Il a dit, c'est pas possible, un pauvre est un pauvre, un mendiant est un pauvre, et c'est pas possible qu'il soit sur un trône de gloire. Donc, ça fait beaucoup réfléchir ce missionnaire. Il dit, mais il y a quelque chose qui se passe là, je comprends pas. Pour nous, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et c'est à partir de là, il a commencé à réfléchir à ces questions de compréhension de ce que ressent comme étant le péché ou comme étant mal. Cet homme est devenu aujourd'hui un homme âgé déjà, devenu un missiologue apprécié, et on le connaît sous le nom de Roland Müller, si vous voulez chercher sur Internet ses livres. Parce qu'il s'est dit, mais c'est ça, l'évangile d'être de la misère du fumier, d'être rétabli dans la gloire ou dans l'estime. Et il a donc beaucoup travaillé cette question de honte et d'honneur. Mais comment expliquer justement ces gens du Moyen-Orient où c'est tellement important cette question d'honte et d'honneur? Et donc il a travaillé cette question. C'est ce que je vais vous dire maintenant dans les moments qui suivent. Donc c'est des pensées essentiellement tirées d'un de ses livres, de ce Roland Müller. Le péché. Comment le péché est-il ressenti dans les différentes cultures? Alors d'abord nous devons peut-être commencer quand même à réfléchir. Qu'est-ce que le péché? Et peut-être un petit rappel du catéchisme, ou ici c'est, je pense, l'instruction biblique. Qu'est-ce que le péché? Il y a deux termes dans la Bible, le terme qui définissent tout à fait bien ce qui s'est passé, le drame qui s'est passé dans le jardin d'Éden. En hébreu, chata, ça vous connaissez bien, la signification de chata, c'est manquer la cible, passer à côté du but. Tourner le dos à Dieu, ne pas obéir, laisser de côté, c'est complètement manquer le but de la vie, parce que Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. En grec, amartia. Amartia désigne beaucoup plus la culpabilité due à l'opposition et la révolte contre Dieu. Donc Adam et Ève ont cédé à la tentation de faire confiance, non pas à l'ordre de Dieu, mais ils ont écouté la voix de Satan. On cède à cette tentation de devenir eux-mêmes comme des dieux, de prendre d'une certaine manière la place de Dieu. Cette révolte, cette désobéissance dans le jardin d'Éden, en théologie on l'appelle le péché originel. Alors la parole de Dieu nous montre très clairement que tout être humain a hérité le péché originel. Le virus est en nous, nous sommes pécheurs. Et parce qu'il y a le péché originel, en termes de la théologie, nous commettons des péchés actuels. Puisqu'il y a eu le péché originel, aujourd'hui, nous péchons. Et je n'ai pas besoin d'insister, n'est-ce pas? Nous le savons tous, nos fragilités, nos faiblesses. Tant de fois nous avons manqué le but, peut-être déjà ce matin, ou dans nos vies, nous sommes à côté de ceux que Dieu voulait pour nous. Nous avons blessé des gens, nous avons besoin de sa grâce. Nous avons souvent raté le but. Les conséquences, donc nous sommes pécheurs, il y a le péché, mais quelles sont les conséquences du péché? Alors, j'ai déjà parlé pas mal, je vais être encore une fois un petit peu interactif. D'après vous, quelles sont les conséquences du péché? Bon, la mort, voilà, on a dit, hein, on a lu le verset. La séparation, privation des biens que Dieu voudrait nous confier, la souffrance, hein, n'est-ce pas? Malédiction, la peur, voilà. Donc, En général, ce qu'on énumère, notamment la mort, c'est vrai que c'est une conséquence du péché, mais plus justement de dire c'est le fruit ou le résultat de la punition de Dieu sur le péché. La mort, c'est déjà la punition de Dieu sur le péché, comme d'ailleurs la douleur. Il est dit dans Genèse 3, « Parce que tu as fait ceci ou cela, tu vas subir les douleurs ou travailler à la sueur de ton front, sortir du jardin d'Éden. » Donc, ce sont des conséquences du fruit de la punition de Dieu sur le péché. Mais les conséquences immédiates du péché d'Adam et Ève se manifestent beaucoup plus dans leur affect. L'harmonie parfaite entre eux et Dieu, et aussi l'harmonie parfaite entre eux et la création, les animaux, tout cela immédiatement était affecté. Et on peut lire ça, et il faut lire, donc relire ça dans Genèse 3, ce qui s'est passé immédiatement après avoir péché. Ils ne sont pas tombés raides morts quand ils ont mangé le fruit. Ils n'ont pas été éjectés du paradis directement. Mais il y a eu une conséquence immédiate quand ils ont péché. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » Alors nous avons du mal à nous imaginer ce qu'était la vie d'Adam et Ève dans le paradis. Imaginez-vous un instant, l'innocence totale. Maintenant, leurs yeux s'ouvrent, ils prennent conscience qu'ils ont fait une faute, leur conscience les accuse, ils ressentent la culpabilité. Et nous savons tous ce que c'est, je pense, la culpabilité. La culpabilité quand nous avons fait quelque chose de travers, peut-être quelque chose que nous ne pouvons même plus réparer. C'est terrible, le sentiment de culpabilité. Parfois, on se sent coupable pour des choses qu'on n'a pas faites. Et parfois, on se sent coupable en relation d'aide. On parle de fausse culpabilité, d'ailleurs relativement répandue dans nos milieux évangéliques. C'est terrible le sentiment de culpabilité. Nous le vivons, nous le connaissons. Adam et Ève ne le connaissaient pas, mais ils le connaissaient après le péché. Ils vivaient dans une paix parfaite. Maintenant, ils ressentent justement la peur. Je pense, nous tous, à des degrés différents. Nous sommes des grands angoissés. Moi, j'ai à lutter contre des problèmes d'angoisse. Nous connaissons l'angoisse. Ils ne la connaissaient pas. Et finalement, ils vivaient dans une sécurité totale. Ils étaient en paix avec Dieu, avec eux-mêmes, et maintenant, ils ressentent la honte. Ils ont eu honte. Et là encore, nous tous, je pense, nous sommes de ces agités qui parfois ont honte pour ce qu'on a fait. J'aime bien ajouter, quand dans la Genèse on dit « ils ont réalisé du coup ils étaient nus », et j'ajoute souvent le « elle » encore, « ils ont réalisé qu'ils étaient nuls ». C'est ça, ils se sentaient nuls. Un sentiment terrible aussi dans notre vie. Ce qui a affecté Adam et Ève immédiatement après avoir péché affecte jusqu'aujourd'hui nos vies. Et les nations, les civilisations à travers le monde ressentent ces choses. Jusqu'aujourd'hui, on peut distinguer dans les différentes cultures du monde trois dominantes dans les cultures. Et ça vient de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors, on parle d'un côté de culture orientée par la culpabilité, on parle de culture orientée par la honte, et on parle de culture orienté par la peur. Et finalement, face à ces mal-êtres qui sont là, ces mal-êtres fondamentaux, Évidemment, il faut chercher un remède. On ne veut pas rester dans ce mal-être. Et cela a donné l'image, évidemment simplifié, hein, ça a donné l'image suivante. Et on va, il va l'afficher, Jean-Marc, merci. Voilà, donc le péché. Le péché produit la culpabilité, la honte, la peur. Évidemment, la culpabilité, le contraire de culpabilité, c'est l'innocence. On pourrait dire aussi faux ou juste. La culture s'est construite sur cette question, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste? Dans les cultures marquées par la honte, le contraire de la honte, c'est l'honneur. Et c'est extrêmement important. Tout à l'heure, je vais définir un petit peu, expliquer un petit peu encore en détail ce que cela veut dire. Donc, contre la honte, il y a l'honneur. Et les cultures dominées par la peur, il y a le pouvoir, la force qui est importante pour éradiquer ce mal-être. Et évidemment, comme à partir des couleurs primaires que vous voyez ici, on peut produire d'innombrables variantes de couleurs dans les cultures aussi, avec ces dominantes, ça donne finalement, ça s'entremélange et donne une multitude de coloris de cultures. Et aujourd'hui, même dans cette église et partout, notamment dans les villes, ces cultures aisément se mélangent et deviennent très colorées. C'est d'ailleurs passionnant, c'est intéressant, mais parfois ça s'entrechoque aussi, justement. Mais à mon sens, toujours, on peut dire, on trouve à travers le monde ces trois dominantes. Et je vais vous donner quelques brefs explications. Alors, le monde occidental, finalement, nous avons, après le paganisme, quand même, nous avons aujourd'hui un héritage judéo-chrétien où la loi joue un grand rôle. Et il ne faut pas oublier non plus que nous venons, finalement, de l'Empire romain, où la loi romaine était normative pour tout le monde, même pour l'empereur. Même l'empereur était soumis à observer la loi. Donc, ça a évidemment marqué notre culture et aussi l'Église, finalement, qui a longtemps dominé. Et on a développé, d'une certaine manière, une culture de la culpabilité. Il était donc important la question, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste? Il y a des règles, il faut observer les règles. Aujourd'hui, les spécialistes, les sociologues disent qu'on glisse loin de cette culture. Et je l'ai remarqué, d'une manière même très proche, qu'aujourd'hui, j'observe les jeunes, et tout à fait aisément, on sèche un cours à l'école. Ou les transports publics. Il paraît que c'est très courant qu'on utilise les transports publics sans titre de transport. Moi, je dois dire, comme moi j'ai été élevé sans être d'un milieu évangélique, jamais j'aurais osé sécher un cours. C'était pas la règle, impensable. Ou prendre un train sans billet. Aujourd'hui, ça, oui, les règles, c'est beaucoup moins important. Ce qui est beaucoup plus important, c'est, vous m'avez vu, suis-je cool? Est-ce qu'on m'aime? Voilà, vous voyez, on glisse vers un peu d'autres valeurs dans notre culture, qui était marquée par la culpabilité. Alors, il y a le monde oriental et le monde asiatique, avec lequel nous travaillons beaucoup. La question fondamentale, c'est comment garder l'honneur? Comment ne pas perdre la face? Et si on perd la face, c'est ressenti comme quelque chose d'extrêmement difficile. La question du statut est importante. Il y a quelqu'un qui a écrit récemment un livre, qui a travaillé pas mal d'années en Corée du Sud. Il n'y a pas de Coréens ici. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Ils sont fous, ces Coréens ». Dans le sens pas péjoratif, mais dans le sens qui c'est extrême, leur course vers le statut. Mon fils aîné, Simon, était 2 mois en Chine et il a vécu la même chose. Il a dit que c'était extrêmement intéressant, mais jamais je voudrais vivre dans cette culture. Cette course après la dernière belle voiture maintenant, ou le téléphone, et la course vers un statut d'une personne aisée, c'est extrême. Il n'a pas bien supporté cela. Donc c'est très important. Et comment, si l'honneur n'est plus là, si on était déshonoré, alors la question comment rétablir l'honneur, cela peut aller très loin. Au point que des parents sont prêts d'assassiner leurs enfants, si un enfant amène le déshonneur dans la famille. Et peut-être pour vous, nous secouer un peu, pour décrire ce que ça veut dire, je vais prendre un exemple extrême, mais c'est vrai, c'est une réalité, ce n'est pas une histoire inventée. Dans un pays du Moyen-Orient, une famille aisée, avec leurs enfants, des filles, toujours enfermées à la maison, en tout cas à partir de l'adolescence, deux adolescentes, mais comme toutes les jeunes filles du monde, elles rêvent d'être maman un jour. Les deux jeunes filles ont joué à être enceintes. Et une des filles a mis un coussin sous sa robe. Mais un voisin, qui était peut-être jaloux de cette famille aisée, l'a vu. Il a répandu le bruit. « Ah, la fille de telle ou telle est enceinte !» Évidemment, elle n'était pas enceinte. Elle a enlevé le coussin et tout le monde lui donnait la preuve. Elle n'est pas enceinte. Mais le déshonneur était répandu dans la ville et on a assassiné cette jeune fille pour un jeu. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller quand on est déshonoré pour rétablir l'honneur. Alors, imaginez-vous, c'est ça. Et Ben pourrait beaucoup plus nous en parler, lui qui a vécu au Moyen-Orient. Quand quelqu'un vient à Christ, quand quelqu'un devient un disciple de Jésus, c'est un des plus grands déshonneurs. Ce n'est pas tellement une question théologique, avant tout. C'est le déshonneur. Et souvent, ces personnes, même jusqu'aujourd'hui, payent avec leur vie ou doivent alors quitter le pays ou disparaître de la famille pour enlever le déshonneur. Voilà, les cultures orientées par la honte. Et finalement, peut-être un peu moins connues, mais il y a les cultures venues de l'animisme. Elles sont marquées par la peur des esprits, la peur des ancêtres. Et comment alors dominer ces peurs? C'est important, il faut du pouvoir. Alors, on a eu recours à travers l'histoire par l'occultisme, le vaudou, le chamanisme, la sorcellerie, et ainsi de suite, pour avoir le pouvoir sur les autres. Et je donne encore un exemple extrême. Vous pensez qu'un cannibale se sentait coupable de tuer un autre et de le manger? Il ne se sentait pas coupable. J'ai relu un petit peu, parce que je ne suis pas un spécialiste du cannibalisme, mais il y avait un certain cannibalisme où c'était très clairement un moyen d'intégrer la force de l'autre pour le dominer, pour dominer ses tribus. Donc vous voyez comme il y a des glissements de valeurs totales, où on est complètement, à un moment donné, perdu, quand on vient avec nos valeurs. Et d'ailleurs, ça c'est maintenant un peu ma thèse, ma remarque, mais ça peut peut-être nous aider à mieux comprendre et je trouve là quelque chose d'intéressant. En général, ces dominantes, on les a aussi reproduites dans nos églises. Regardez en Occident, dans une culture de culpabilité et de loi, on a produit beaucoup d'églises extrêmement légalistes où c'est, voilà, il faut savoir ce qui est faux, ce qui est juste. Et quand c'est faux, on met un poids sur les gens. On a produit beaucoup d'églises légalistes. Je dis toujours, quand on sort de l'équilibre théologique et biblique, dans les cultures de la honte, le statut est énorme. Mais j'ai remarqué avec nos amis, notamment asiatiques, le pasteur. Les pasteurs, ce sont des vrais papes infaillibles. Très, très difficile à leur dire quelque chose ou à les détrôner. Donc, c'est très, très important. J'ai régulièrement eu à travailler avec des personnes plutôt de culture asiatique et des chrétiens qui arrivent ici. Et la première chose, presque, c'est « Quel est votre pasteur ?»« Et mon pasteur, il est ceci. » Donc, c'est très important, le statut. D'une manière exagérée. Et finalement, j'ai aussi réalisé que les églises qui ont un arrière-plan animiste, quand on sort de l'équilibre, alors comprenez-moi bien ce que je dis, il y a de nouveau cette question du pouvoir qui est important. Il faut le pouvoir sur... Évidemment, ces gens ont vécu parfois des choses dans l'occultisme, mais je pense personnellement qu'on peut apprendre aussi de ses frères et sœurs, mais quand ça glisse dans un extrême, on n'est plus tout à fait à l'aise et il n'y a plus que cette question du pouvoir qui est important. Et ainsi, j'ai trouvé... Alors, je ne sais pas du tout si cette église existe encore à Mulhouse, il y a pas mal d'années, j'ai vu une affiche Et ça sort donc même dans le nom des églises, ce besoin de pouvoir sur les esprits. Et j'ai vu qu'il y avait une affiche d'une église, église évangélique de la montagne du feu. Oh, je dis, waouh, j'ai vu l'affiche. Ce soir ou à tel soir vient le prophète tel ou tel, guérison, libération, waouh, pouvoir. Et une autre église évangélique qui s'appelle Holy Ghost Power Mission. Waouh, il faut le pouvoir. Donc, vous voyez, on retrouve, je pense, ces choses aussi, finalement, dans les églises. Alors, pourquoi est-il important de parler de ces choses? Et là, je dois aller plus vite. Comment je vais faire? Pourquoi est-il important de parler de ces choses qui sont un petit peu techniques et évidemment qui viennent aussi de mon monde, de mon univers de missionnaire? Ça me passionne. Il faut en réfléchir afin de pouvoir mieux expliquer le remède, l'évangile, trouver les bonnes paroles, les paroles adaptées, ou ce que disait Constance, quand même se mettre au niveau de l'autre pour le comprendre. Donc c'est important ces réflexions. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans ce sens et cela nous aide. Roland Müller fait encore une comparaison intéressante. Il dit dans le monde médical, qui est une industrie énorme, on investit des milliards pour mieux comprendre les maladies, pour trouver les remèdes. Il dit, toute entreprise missionnaire existe, non pas parce qu'il y a la maladie, mais parce qu'il y a le péché. S'il n'y a pas le péché, pas besoin de société missionnaire, n'est-ce pas? Pas besoin d'oasis. Mais il y a le péché, et il trouve qu'on a très peu étudié dans la théologie, en tout cas chez nous, ce qu'on appelle l'amartiologie. J'ai du mal à le dire. Vous avez compris, tout à l'heure je disais le terme en grec, c'est l'étude du péché, la conséquence du péché. On a la sotorologie, la christologie, on parle du remède, et c'est important évidemment de connaître. Mais nous devons apprendre ces choses afin de mieux pouvoir partager l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ, où Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Alors, je vais essayer d'aller plus vite, et je vais préparer la Sainte Cène. Ça facilitera le frère qui doit introduire la Sainte Cène. Donc, pour terminer, plus nous approfondissons ces questions de la conséquence du péché pour moi, plus grande devient la croix de Jésus-Christ, plus importante. Nous avons parlé de culpabilité, nous sommes coupables. Nous sommes coupables, mais la bonne nouvelle que nous annonçons aujourd'hui à la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris notre culpabilité sur lui. L'acte rédigé contre nous était cloué à la croix. Nous avons parlé de peur, et nous avons peur. Nous avons des incertitudes, des angoisses, des appréhensions. Il y a parfois les forces de ténèbres qui essayent de nous attaquer, de nous troubler. On ne comprend même pas toujours ce qui nous arrive. Mais la bonne nouvelle que je peux annoncer ce matin, c'est que Jésus, à la croix de Golgotha, a vaincu la peur. Il a pris l'angoisse sur lui. Il a subi l'angoisse dans sa passion. Et il a dominé, encore Colossiens 1, 2, 15, il a dominé sur les pouvoirs des ténèbres. Nous avons parlé de honte. Et nous avons honte pour des choses que nous avons faites, pour les gens que nous avons blessés. Des gens ont été, notamment les femmes, Constance en a justement parlé, des femmes qui avaient été abusées, dévalorisées, blessées. Elles se sentent nulles, justement, nues et nulles. Mais le Seigneur est le spécialiste à nous rétablir dans notre honneur. Jésus a aussi pris notre honte sur la croix de Golgotha. La mort sur la croix était culturellement parlant et religieusement parlant un échec total, la honte totale. J'ai lu sur un site internet cette réalité sur la mort de Jésus et il définit la chose suivante. Aucune mort était si minutieuse dans le sens de la douleur. Aucune honte n'était si complète que la mort sur la croix. Alors certains disent que les Juifs avaient une dérogation pour ne pas être crucifiés nus, mais on ne le sait pas exactement. Normalement, les crucifiés étaient nus. Il y avait là une honte totale pour les crucifiés. Donc nous pouvons affirmer avec force que Jésus a pris notre nudité, notre nullité aussi sur la croix et nous rétablit comme être humain, comme enfant de Dieu, comme serviteur et nous dit « Je t'aime parce que je t'ai sauvé, je t'ai pardonné, j'ai accompli cette œuvre de libération à la croix de Golgotha. » Alors, merci au Seigneur Jésus de nous avoir libérés de notre culpabilité, de notre honte et de nos peurs. Amen.